France Inter, Interclasse.
On ne peut plus, je ne vais pas dire pleurer comme les anciens, parce qu'ils ont souffert et tout, mais on ne peut plus se comporter comme les anciens, parce qu'on doit construire notre immeuble tout seul. On ne doit plus demander la permission, de dire est-ce que je suis français, est-ce qu'on peut vivre ensemble. Il n'y a plus de permission à demander maintenant. Fait et puis c'est tout. Susciter des vocations, accompagner des parcours, et semer des graines dans la tête des gens. Parce que souvent, les gens en cité, ils aiment bien, ils veulent tous réussir, mais ils ne veulent pas travailler. Il faut juste, comment ça s'appelle, leur mettre dans la tête que tu peux réussir, tout le monde peut réussir, mais il faudra passer par le travail.
France Inter, Interclasse, lycée Guy de Maupassant à Colombes.
Colombes, 85 000 habitants au nord-ouest de Paris, est coincé dans un méandre de la Seine.
Non, tu viens ou pas ?
Roder, Nakib et Rémi attendent devant la gare Transilien, en bas de la rue Saint-Denis, une artère commerçante de la ville. Dans le centre, un conservatoire, des médiathèques, le théâtre de l'avant-scène et un cinéma, l'Hélios.
Ouais, on peut au moins dire que malgré qu'on n'est pas une grande ville, bon, on a quand même un cinéma, quoi.
Colombes, ville sans prétention, mais où rien ne manque. C'est en tout cas ce que pense Rémi.
Depuis toujours, j'habite ici. Depuis que je suis tout petit, je j'arpente les rues. Je fais du sport, je peux faire du foot, du basket. Je mange dehors avec des amis, je peux aller au cinéma. Des choses classiques.
Nakib, lui, a grandi dans une famille de 5 enfants. Il est celui du milieu. Il connaît la ville par cœur.
Il faut trouver les bons endroits. Il y a des endroits bons, comme il y a des endroits mauvais. Je dirais que les bons endroits, c'est là où on peut s'amuser. Genre au Racing, au Stadif du Manoir. Il y a des terrains de foot ou des terrains de basket. Là, on peut s'amuser. Mauvais endroit, c'est traîner en bas des bâtiments. Ça dépend où on traîne et avec qui.
Ces trois ados passent peu de temps dans le centre. Leur Colombes à eux est plus à l'ouest,
On a 10-15 minutes.
En bord de Seine, et surtout à l'écart des bruits de circulation.
Là, on est au parc de l'île Marante. Il y a des terrains avec de l'herbe, il y a beaucoup de végétation.
Rémi habite près du quartier des Grèves, pas loin des tours de l'avenue Audra, où passe le bus qui les conduit à leur lycée.
J'habite pas vraiment dans un bâtiment aux Grèves, mais j'habite à même pas 100 mètres. Je passe souvent à côté et je vois que c'est pas des bâtiments neufs. Souvent, l'ascenseur marche pas ou quelque chose comme ça.
Nakib vit à l'intérieur de la cité des Grèves. En 2016, un chantier de rénovation promet de rendre l'endroit plus attractif, convivial et ouvert sur le reste de la ville. Mais...
Moi, j'habite dans un de ces bâtiments, je suis d'accord. D'ailleurs, il y a un ascenseur qui ne marche pas actuellement. Les escaliers, ils sont vraiment sales. C'est limite terrifiant d'y passer.
Malgré tout, aucun de ces enfants de Colombes ne se voit quitter la ville. Du moins, pas pour très longtemps.
Même si je changerai de ville quand je serai adulte, il y a toujours... C'est un peu une fierté d'habiter ici à Colombes, enfin pour moi. Donc oui, bien sûr que je reviendrai, je regarderai si ça a changé ou pas. Et je me remémorerai les souvenirs de ma jeunesse.
Comme on dit, faut jamais oublier d'où l'on vient.
C'était le reportage de Fanny Léonore Crouzet, la journaliste et coordinatrice d'Interclasse dans les rues de Colombes, dans les Hauts-de-Seine, au nord-ouest de Paris. Et nous sommes justement avec les élèves de la classe de seconde 9 du lycée Maupassant de Colombes. Bonjour à tous, merci d'être venus. Cette émission a été préparée avec Caroline Jean et Christine Bonamy, vos enseignantes, avec l'équipe pédagogique du lycée bien sûr, ainsi que le CLEMI, le Centre pour l'éducation aux médias, et plus particulièrement Franck Dubois, sans oublier les étudiants de l'Institut pratique du journalisme. Et à mes côtés dans ce studio, j'ai le grand plaisir d'accueillir Rislaine Coréfi, tu as 16 ans. Bonjour Rislaine, tu t'es portée volontaire pour co-animer cette émission avec moi. Qu'est-ce qui t'a motivée ?
Je dirais que c'était par curiosité. C'est un projet qui m'a énormément intéressée et je me suis même dit que c'est pas tous les jours qu'on anime une émission, que c'est quelque chose que je ferai sûrement qu'une fois dans ma vie et je me suis proposée sans réfléchir parce que c'est une expérience de fou à ne pas laisser passer.
Alors ta classe, la classe de seconde 9, a choisi de traiter le thème de la mixité sous plein d'aspects, sous plein d'angles, on va l'entendre. Et pour toi, la mixité, qu'est-ce que ça veut dire ?
C'est tout d'abord la différence et pour être plus précise, c'est la différence entre les personnes ou d'un concept donné. Enfin, selon moi, c'est plusieurs thèmes différents qui sont à l'opposé de chaque proposition donnée.
Merci beaucoup Rislaine, tu restes en studio à nos côtés. Et nous ouvrons à présent la première page de cette émission, la mixité dans les couples avec Mathis, Myriam, Anya et Jenna. Bonjour à tous, bienvenue.
Bonjour, bonjour.
Jenna, peut-être pour commencer, pourquoi vous avez choisi ce thème ?
On l'a choisi car d'une part c'était quelque chose qui nous touchait tous à peu près dans la classe et d'autre part parce que c'était une manière aussi d'éclaircir nos doutes.
Alors pour aborder ce thème des couples mixtes, nous avions justement dans ce groupe deux enfants de couples mixtes, Mathis et Myriam, et vous avez interviewé vos propres parents, vos propres familles sur leur histoire.
Mon père, il est français et ma mère, elle est coréenne. Ils se sont rencontrés en Allemagne et ils se sont mariés le 5 décembre 1998 dans le Loir-et-Cher. Pour la famille de mon père, ils ont assez bien réagi, mais ils étaient un peu surpris. Mais comme ma grand-mère, elle avait une langue commune avec ma mère, c'était l'allemand, bah ça allait. Et du côté de ma mère, par contre, ils étaient contre ce mariage et ils étaient déçus, car elle était plus en Corée, mais au final, ils l'ont accepté. Ils n'ont pas fait de mariage religieux, car ils n'avaient pas la même religion et on n'a pas eu de problème de religion dans la famille. Ils ne nous ont pas fait grandir dedans. On a grandi dans une double nationalité, mais quand même un peu plus française parce qu'on vit en France. Et pour ma mère, c'était plus compliqué parce qu'au début, on habitait dans un village, il y avait peu de diversité. Mais quand on est arrivé en Île-de-France, il s'est senti beaucoup plus à l'aise parce qu'il y en avait beaucoup plus.
Alors moi, je suis né d'un père sénégalais et d'une mère française. Mes deux parents sont mariés au Sénégal en 2002. Mais aucun membre de la famille de ma mère n'a souhaité se rendre au mariage car il pensait que mon père voulait se marier seulement pour les papiers. Une fois en France, le père de ma mère ne voulait pas que mon père vienne chez lui. Mais une fois qu'ils se sont rencontrés, ils se sont tout de suite bien entendus et sont partis en voyage ensemble. Toute la famille de ma mère a fini par accepter ce mariage. Et aujourd'hui, il n'y a plus aucun souci.
Ce sont des histoires qui se terminent bien. Et pour commenter et pour analyser finalement ces histoires, vous avez rencontré une sociologue qui s'appelle Anne Unterreiner, une jeune sociologue qui a fait sa thèse sur les enfants de couples mixtes. Et voici son commentaire.
Ce qui paraît dans vos récits, c'est la question de finalement, est-ce que la mixité, c'est un problème ? Et c'est aussi du coup la question du regard de l'autre. Le regard des autres, il évolue aussi selon l'endroit où on est. Et c'est vrai que moi, ce qui ressortait beaucoup de mes entretiens, c'était que ça pouvait être source de souffrance aussi. De devoir constamment expliquer son origine, expliquer qui on est, expliquer la complexité. Et le fait qu'on n'est pas que dans une case, mais qu'on est plein de choses et qu'on n'est pas aussi que des origines, ça posait beaucoup de questions. Cette mixité, on vit avec différemment selon son âge et selon la manière dont on évolue. Au fil du temps, moi, j'ai pu remarquer que mes enquêtés, quand ils me parlaient de leur histoire et de leur rapport à leurs origines, ils me disaient que quand ils étaient petits, ils s'identifiaient par rapport à leurs parents avant tout. Et donc, cette question de finalement, je suis qui ? J'habite dans un pays, mes parents viennent d'un autre. Enfin, beaucoup de mes enquêtés m'ont dit, très honnêtement, maintenant, ça m'est totalement égal. Moi, je suis un papa. Le reste de ma nationalité, pas ma nationalité, franchement, je suis passée à autre chose, quoi. L'identité, elle n'est pas marquée dans votre ADN. L'identité, c'est celle que vous avez envie de vous construire. Parce qu'à un moment, la question, elle se pose de finalement, qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie ? Où est-ce que j'ai envie d'être ? Où est-ce que j'ai envie d'habiter ? Et dans ce moment-là, on peut y répondre différemment que ce qu'on s'était imaginé 3 ans avant. Et donc, tout ça pour dire que la mixité n'est pas forcément un problème. Il y a des situations qui sont plus compliquées que d'autres. Mais en tout cas, ce n'est pas a priori un problème.
Quelle est la place des mariages mixtes dans la société française et celle des enfants de couples mixtes ? Y a-t-il une évolution dans le temps ? Si oui, lesquels ?
Alors, on va voir que selon les moments, la question de la mixité va plus ou moins faire débat, faire polémique. Il y a quelques années, on a eu des débats autour de l'existence de mariages gris. Et d'ailleurs, vous en avez parlé dans l'un de vos récits, je crois. La peur que, je me demande si c'est pas vous, que votre père se marie avec votre mère pour les papiers.
C'est ça.
Voilà, donc ça, c'était l'idée du mariage gris, en gros. Et donc, vous voyez, quand il y a ce type de choses qui apparaît dans les médias, forcément, il y a énormément de polémiques. Et le regard porté sur les couples mixtes et les familles mixtes est différent qu'à d'autres époques. Si la question concernait les statistiques, elle est un peu différente. Alors là encore, quand on parle de statistiques en France, on va regarder du côté de l'INSEE, donc de l'Institut National de la Statistique et des Études Économiques, et on regarde les chiffres qu'ils ont. Quand on parle de mixité au sens statistique du terme, les données qui existent sont soit sur le pays de naissance des parents, soit sur la nationalité des parents à leur naissance ou au moment de l'union ou de la naissance de l'enfant, ou les deux. Donc, quand on parle de couple mixte au sens de la statistique publique, il y a différents indicateurs. Mais vous voyez bien là que dans cette définition-là, on ne parle pas de mixité religieuse, par exemple. On ne parle pas de mixité ethnique. Les indicateurs statistiques nous parlent de nationalité et de pays de naissance. Donc, les chiffres montrent effectivement qu'il y a une augmentation du nombre de ces unions-là, de ces unions binationales ou entre une personne née en France et l'autre née à l'étranger, au fil du temps. Je vais retrouver mes chiffres pour ne pas vous dire trop n'importe quoi. Les chiffres de 2015 montraient que les unions entre un Français et un étranger ou une étrangère représentaient 27% des unions en 2015.
Quelle est la part d'enfants issus de couples mixtes en France ? Ben, je ne sais pas si vous avez le chiffre exact du nombre...
Le chiffre exact, il faut savoir que les derniers chiffres datent de 2008, donc je suis un peu gênée de vous les donner, quoi, parce que ça fait quand même 13 ans. Mais pour être clair, à l'heure actuelle, on est de l'ordre de 10%.
Mais je ne me rends pas compte, ça fait beaucoup, 10% sur
ça fait beaucoup,
toute
oui.
la France
oui. Ça fait beaucoup. Sur 60 millions de personnes, ça fait...
Mmh. Okay.
Est-ce qu'un enfant issu d'un mariage mixte réussit-il mieux à l'école ?
On peut pas dire un enfant de couple mixte réussit mieux ou un enfant de couple mixte réussit moins bien. Donc pour les enfants de couple mixte, ça va dépendre des pays, ça va dépendre des parcours, ça va dépendre des origines nationales, des origines sociales de ces enfants. Et donc on voit des groupes qui réussissent certains mieux. Par exemple, les enfants de couple mixte issus d'Afrique subsaharienne et des enfants qui réussissent un peu moins bien. Par exemple, les franco-algériens et aussi d'autres groupes. Mais là encore, il y a des évolutions au fil du temps.
Alors, quelles sont les différences flagrantes entre les enfants issus d'un couple mixte et les autres ?
Alors, je vais être en difficulté pour répondre à cette question, simplement parce que moi, dans mes enquêtes, j'ai pas fait d'enquête avec des personnes qui ne sont pas issues de couples mixtes. Ce que je peux dire, c'est qu'il y a des différences entre les enfants de couples mixtes. Comme je vous l'ai dit, selon l'histoire familiale, selon le parcours migratoire du parent étranger aussi. Par exemple, moi, ce que j'ai pu remarquer dans l'enquête que j'ai menée, c'est que les enfants de réfugiés politiques se voyaient transmettre beaucoup moins de choses que les enfants où il n'y avait pas cette histoire un peu traumatique de la migration. Mes enquêtés, quand ils me parlaient de leur histoire et de leur rapport à leurs origines, ils me disaient que quand ils étaient petits, ils s'identifiaient par rapport à leurs parents avant tout. Et qu'à l'adolescence, avant tout, ils voulaient se construire pas par rapport à leurs parents, mais par rapport à eux-mêmes, être reconnus comme individus.
Mais en général, dans notre entourage à nous, comme on est adolescent,
ouais.
Nos amis, ils ont trouvé... Par exemple, Jenna ou Anya ou Kenza, elles sont algériennes. Enfin, elles se considèrent comme algériennes plutôt, je pense, ouais. que françaises.
Mais ce que tu me dis, c'est que toi, c'est un peu plus instable, c'est ça ?
Pour moi ?
Oui. Non, ce que tu me dis, elles ont trouvé. Donc,
ouais. En fait, ce qu'il veut dire, c'est que nous, quand on nous demande quelle origine, on ne dit pas qu'on est française, mais plutôt algérienne, directement. C'est ça ?
D'accord. Déjà, moi, ce que j'aimerais beaucoup, c'est qu'on se revoie dans 10 ans. Et qu'on dise, finalement, quand on vous demande vos origines, vous dites quoi ? Et je ne serais pas étonnée, et ce ne serait pas un problème, encore une fois, de dire autre chose. Parce que l'identité, elle est pas, on n'est pas né avec, c'est pas marqué dans votre ADN. Enfin, l'identité, c'est celle que vous avez envie de vous construire, et celle, selon l'entourage que vous aurez, que vous trouverez. Et donc, elle peut basculer, elle peut changer. On peut aussi, comme je l'ai dit, se dire, mais moi, qu'est-ce que j'en ai à faire, franchement, d'être français, pas français. Moi, je suis sur autre chose, là. Moi, je suis DJ, quoi. Enfin, vous pouvez me parler de ma nationalité, ça m'est totalement égal, quoi.
Vu qu'on est, enfin, on est des enfants de parents mixtes, quand on nous pose la question de quelle origine vous êtes, on attend plus qu'on dise, par exemple, algérien, marocain.
Chinois.
Parce que vu qu'on a la peau métissée, on attend plus une réponse... je sais pas si vous avez compris ce que je voulais dire.
Non, j'ai tout à fait compris. Déjà, il faut savoir que... le regard des autres, il évolue aussi selon l'endroit où on est. Et c'est vrai que moi, ce qui ressortait beaucoup de mes entretiens, c'était que ça pouvait être source de souffrance aussi, de constamment être envoyé à ça. Et le fait qu'il y ait des questions un peu répétées sur son origine et de devoir constamment expliquer son origine, expliquer qui on est, expliquer la complexité et le fait qu'on n'est pas que dans une case, mais qu'on est plein de choses et qu'on n'est pas aussi que des origines, ça posait beaucoup de questions.
Pour moi, c'est normal. Enfin, je suis en France, du coup, c'est sûr que je suis française. Mais pour moi, c'est normal de dire que je suis algérienne. Française, ils le savent déjà de base que je suis. Du coup, sur ça que je dis pas.
Et c'est aussi parce que, en fait, mon pays étranger d'origine, c'était le pays des vacances. C'était le pays où il n'y a pas de contraintes. C'était le pays où on va voir la famille. Et donc, c'était le pays où on se sentait le mieux. Encore une fois, là, il y a de la fluidité et il y a une différence entre ce qu'on peut percevoir à un moment donné de sa vie et comment... On arbitre parce qu'à un moment, la question, elle se pose de finalement, qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie ? Où est-ce que j'ai envie d'être ? Où est-ce que j'ai envie d'habiter ? Il y a toutes ces questions-là, elles se posent. Et dans ce moment-là, la question, on peut y répondre différemment que ce qu'on s'était imaginé 3 ans avant. Et donc, tout ça pour dire que la mixité n'est pas forcément un problème. Il y a des situations qui sont plus compliquées que d'autres. Et selon le moment où on est, selon l'entourage qu'on a, on va vivre la mixité différemment. Mais en tout cas, ce n'est pas a priori un problème. Okay. Voilà.
Bah écoutez, merci.
Je suis dans l'audicram et je vais récupérer ce que j'ai à prendre, je me casse ici. Toi t'as coupé des têtes, bien sûr je te crois assis ici. Plus en plus d'ennemis, moins en moins d'amis. On m'a dit tu comprendras quand tu seras grand, j'ai compris pourtant j'ai pas grandi. J'ai beaucoup mûri, une équipe méchante c'est pour ça qu'on sourit pas. Trop j'ai un an, on attend l'heure du repas, 77-260, j'ai pas de repas. L'élastique va exploser, les sommes d'argent deviennent trop colossales. Les pertes, les comptes, le bif, le cash, ray, bien sûr qu'on connaît ça. Des grosses lascarines dans mes poches. Là je peux mettre bien mes proches. Garde ton pouce au clé. C'est au bébé, je m'en
toute façon j'ai qui sont mes vrais vrais frères. Mes vrais vrais frères, toujours présents s'il y a toi. Mes vrais vrais frères, s'il y a pour mi, hésite pas. Mes vrais vrais frères, toujours là pour mes poplus. Mes vrais vrais frères, je te conseille de pas déconner. Mes vrais vrais frères. 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 Mes vrais vrais frères, toujours là pour mes poplus. Dis que je deviens parano, je sais plus trop sur qui compter. S'il y a Bourbier, dis-moi qui sera là à mes côtés. On a pris du bénéfice, c'est ça qui m'intéresse. Et que je m'arrêterai pas. Toi tu fais que Genève, j'aurais dû t'éliminer depuis le départ. Trop parler peux-tu. Et on parle pas beaucoup, c'est nous les tueurs. Il faut les mecs grave serre. Devant le canon ça finit en sueur. On sait que tu vas rien faire donc on bouge pas. Pour les mecs balais et des touches. Car je veux qu'elles finissent en surpoids. Faut pas que ma seule devienne toute plate. On se casse le dos toute l'année. J'espère que ça va payer. Prennent par Albatino, ils devaient des sous, ils bégayaient. Igo, tu nous connais, on fait tout pour la monnaie. Quand y'avait rien à faire dans le check, on prenait les bacon en zone. Des grosses classes qui rentrent dans mes poches. Alhamdoulilah, j'peux mettre bien mes proches. Garde ton trousseau de clé, c'est au pit biche qu'on cassera la porte. Rien ne pourra nous arrêter, mon ami. Tu sais qu'on est vraiment prêt, prêt, prêt. Les hypocrites nous envahissent, de toute façon, je sais qui sont mes vrais, vrais frères. Mes vrais, vrais frères, toujours présents s'il y a toi. Mes vrais vrais frères, s'il y a pour mi, hésite pas. Mes vrais vrais frères, toujours là pour mes poplus. Mes vrais vrais frères, je te conseille de pas déconner. Mes vrais vrais frères. 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 Mes vrais vrais frères, toujours là pour mes poplus.
Élodie Royer est à présent avec nous. Bonjour Élodie, tu prépares l'émission de Laura Adler sur France Inter et tu es aussi investie cette année dans Interclasse et tu as travaillé avec un groupe d'élèves de la classe de seconde sur la mixité dans le monde de la culture cette fois.
C'est vrai, donc avec Anna, Kinan, Archana, Adrien, Christine et Rami, il a très vite été question de la culture dans nos discussions autour de la mixité. Surtout de l'accès à la culture, parce que la plupart d'entre eux sont jamais allés au théâtre pour voir de spectacles et encore moins à l'opéra. On s'est alors demandé comment on pouvait accéder à ces grands lieux de culture, que ce soit en tant que spectateur ou interprète. Et l'itinéraire éblouissant Kader Belarbi, donc franco-algérien, devenu danseur étoile de l'opéra de Paris en 1989, nous a intéressés. Et on a voulu interroger celui qu'on appelait à l'époque l'étoile beurre. Donc alors Kinan, c'est toi qui lui avais posé la première question lors de l'interview.
La première question c'était, quels ont été vos premiers souvenirs avec la danse?
Eh ben mon premier souvenir, il va tout de suite intervenir sur Colombe, parce que j'ai dansé à Colombe, le ballet mythique de Gisèle avec Elisabeth Platel, qui est une autre danseuse étoile. Voilà, c'est mon premier souvenir qui vous appartient aussi.
Quelle éducation avez-vous reçue dans votre enfance?
Écoute, j'ai un père qui était militaire, qui a été un autodidacte, qui s'est construit tout seul, qui a été gradé, qui était dans l'infanterie, qui a fini lieutenant-colonel. Mon père était algérien aussi, donc je suis aussi d'un mariage mixte. Ma mère avait, je pense, quelque chose sans doute de plus chaleureux, maternel, plus fantaisiste aussi. Et au-delà de ce que les parents te renvoient, j'ai suivi une éducation tout à fait normale, en étant un enfant de la République, en allant à l'école publique uniquement. Sauf qu'à un moment donné, mon père était en mutation, parce que militaire, tu sais, tu changes de ville. Je suis retourné à Grenoble, où je suis né. Et ça a été aussi l'ouverture et l'inauguration du conservatoire de musique et de danse de Grenoble. Et là, il y avait un professeur qui s'appelait Lolita Parent, qui était une danseuse de l'Opéra de Paris, et qui a indiqué à mes parents la possibilité que je puisse me présenter à l'école de danse de l'Opéra de Paris. Donc ça rentre absolument dans l'éducation, parce que moi j'étais plutôt indéterminé. Ma sœur s'est présentée avec moi, ça a été un drame familial parce qu'elle n'a pas été choisie. Moi je suis passé vraiment à l'âge limite, c'est-à-dire 13 ans et demi à l'école de danse, sans une vraie volonté. Et puis ensuite, j'ai suivi tout ce cursus de formation, d'apprentissage, on va dire du corps, pour pouvoir rentrer ensuite dans le corps de ballet, qui est aussi un examen final.
Bonjour.
Bonjour.
Je m'appelle Rami Ayadi. Donc, comme vous le disiez tout à l'heure, vous êtes issu d'une culture mixte. Alors, quand vous êtes entré à l'Opéra de Paris, est-ce que vous avez rencontré d'autres danseurs dans votre situation issus d'une culture mixte?
Alors, il n'y en avait sans doute pas beaucoup. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est aussi quelque chose qui est une discussion très, très ouverte, voire même une polémique à l'Opéra de Paris. Mais la diversité, finalement, a toujours été présente à l'Opéra de Paris. J'en suis le reflet, mais il y a d'autres camarades, on va dire garçons et filles, qui étaient issus, comme ça, de la diversité. Mais cela pose peut-être la question de l'accès. Est-ce que tu peux avoir accès, toi, à la danse classique, aller prendre un cours de danse classique comme tu prendrais un cours de tango, de zumba ou de hip-hop?
Bah non, bien sûr, c'est en général, oui, c'est un peu mal vu ou des choses comme ça. Donc,
Et pourquoi c'est mal vu?
Je sais pas.
Alors, attends, je vais t'aider un peu parce que souvent on dit que peut-être la danse classique c'est élitiste et aristocratique. Est-ce que tu crois ça? Ça appartient aux bourgeois?
Je pense pas parce que vous êtes l'exemple même. Vous avez très bien réussi à être danseur puis chorégraphe.
Mais elle est peut-être restée dans un endroit qu'on appelle une maison d'opéra. On se dit, waouh, mince, les maisons d'opéra, c'est pas spécialement pour tout le monde. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce qu'une maison d'opéra, c'est pour tout le monde?
Ça devrait l'être.
C'est plus
peut-être un problème de morale.
De morale? Pourquoi de morale?
Parce que peut-être les gens ont des préjugés sur la danse. Et ils pensent que c'est pour les filles, etc.
Voilà, bah, c'est peut-être ça qui est à changer. C'est vachement bien ce que tu dis, ouais, peut-être. Il faut qu'on le change tous. Moi, j'aimerais vous poser une question à chacun ou à tous. Est-ce que vous dansez?
Non.
Non.
Non? Pourquoi vous dansez pas?
Parce que ça m'a pas attiré.
Comment ça?
J'ai jamais réfléchi à en faire.
Ouais.
Non, je danse pas, mais j'écoute de la musique.
Ouais, mais ça te stimule pas? Je veux dire, quand tu écoutes de la musique, il n'y a pas un mouvement interne qui bouge et...
Si le cœur, il bat plus vite, ça, c'est scientifiquement prouvé.
Oui, ça, c'est vrai. Vous prenez plaisir au mouvement, au
oui,
geste?
Moi, je danse, mais que chez moi.
Tu danses que chez toi?
Oui.
Tu es pudique, c'est ça?
Oui.
Ouais. Non, mais ça peut se comprendre. Hein.
Ah, moi, je suis un peu faire de la danse, mais en sociologie, on dit que le choix est toujours influencé par l'environnement. Donc, du coup, peut-être si j'aurais eu une sœur qui, par exemple, dansait, peut-être que j'aurais dansé. Parce que en soi, la danse, c'est un sport comme un autre. Mais moi, j'ai eu plus des frères qui jouent au foot, donc... J'ai été influencé par cet environnement et du coup, maintenant, moi, j'aime bien jouer au foot.
C'est très juste ce que tu dis. Tu as raison, il y a des stimulations qui sont autres. Je pense que ce sont des accumulations. Le contact peut-être avec ma sœur, avec des activités souhaitées par les parents qui te mettent dans un conservatoire. J'ai fait du piano, du solfège, voilà, qui fait que tu as des stimuli. Hein, et puis, tu adhères ou tu n'adhères pas à ça, et tu prends la voie ou tu ne prends pas la voie. Moi, elle a été tardive, mais j'y suis quand même allé.
Bonjour, Kader.
Bonjour, Adrien.
À l'époque de votre entrée dans la troupe de l'Opéra de Paris, qu'est-ce qui vous a gêné dans la récupération médiatique autour de vos origines?
Ah, tu sais, c'est toujours très, très étonnant de n'être personne et de devenir quelqu'un. Ça, c'est très troublant. Et c'est vrai que pour moi, en 1988, j'ai eu un choc de voir une double page dans un canard titré « Premier danseur beurre ». Ce qui n'était pas la réalité. Moi, je suis un demi-beurre à la limite, mais pas un beurre. Et d'avoir tout d'un coup un grand élan médiatique, c'est une sorte de grande tornade qui est de l'ordre parfois de la récupération, avec des associations, avec tout un ensemble de choses, des grandes émissions de télévision, etc., où je devais justifier de qui j'étais. Mais moi, je suis qui je suis, point. Alors, c'est vrai que c'est un moment qui était celui de l'intégration. Je pense que c'est nécessaire, parfois, et c'est ce que j'ai pratiqué vraiment dans les rencontres qui ont été les miennes, ou dans des manifestations... qui sont celles de médiatiques, c'est d'être parfois un exemple. Je pense que c'est nécessaire. Ça, j'ai toujours accepté ce genre de choses, mais jamais d'une manière militante.
Et lorsque vous avez, en 2017, pour la première fois, présenté un ballet intitulé Le Corsaire aux Champs-Élysées, vous étiez le directeur d'une troupe de 35 interprètes de 14 nationalités différentes. Est-ce important pour vous, la question de la mixité?
Oui. J'ai fait partie d'une grande institution qui est l'Opéra de Paris. Je suis sorti de cette institution puisque je suis parti à l'extérieur en tant que chorégraphe et en tant que directeur sans renier cette maison qui m'a construit, qui m'a fabriqué, mais je suis dans un autre endroit, tout simplement, qui est celui de Toulouse, voilà, au Théâtre du Capitole, ce qu'on appelle le Ballet du Capitole. Et quand je suis arrivé là-bas, je me suis dit qu'il fallait absolument... Moi, je ne suis pas dans une pâle copie d'une grande institution comme l'Opéra de Paris. Je suis encore moi-même, et en tant que directeur, quelle est la conception? Et donc, la première fondation d'un ballet, ma première question a été celle des danseurs. J'ai ouvert les auditions au monde entier. C'est autant des Japonais que des Brésiliens, que des Américains, des Allemands, des Espagnols, des Italiens, tout ce que tu veux dans le monde entier. Et je me suis dit que ça, au fur et à mesure de ces 8 ans, 8 saisons déjà, j'ai reconnu une richesse absolument incroyable. D'abord, chacun a sa civilisation, chacun a sa mentalité, chacun a sa culture. Comment je fais converger finalement toutes ces personnes sur ce qu'on appelle un spectacle qui a un style précis, une rencontre chorégraphique précise, mais avec toutes ces différences. Toutes ces personnalités, donc de la diversité, je dirais, culturelle, arrivent ensemble à pourquoi pas faire Gisèle, qui est un ballet romantique. Mais c'est ça la vie, c'est ça la danse, c'est ça le bouillonnement. C'est simplement d'embrasser tout le monde et de venir se converger ensemble et de vivre ensemble quelque chose.
Voilà les élèves qui vont aller à l'Opéra voir Kader Bellarbi sur scène.
Parce qu'il faut dire que quand même, il vous a proposé d'aller voir son prochain ballet. Ce sera Gisèle à la saison prochaine. Il vous a invité à venir voir le spectacle.
Bravo, merci Elodie.
Merci.
Vous écoutez Interclasse sur France Inter. La place des femmes dans la société, c'est une question majeure quand on parle de mixité, le thème que vous avez choisi cette année. La place des femmes dans le rap français, c'est un peu une question au carré sur ce thème. Alors, on te retrouve, Rizlaine, car tu as travaillé sur ce sujet. Je te laisse faire la présentation.
Alors avec mon groupe, on a travaillé avec Frédéric Kérou. Il est technicien de reportage à Radio France et il a engagé à Interclasse depuis 2 ans. C'est avec lui qu'on a fait l'interview avec Doria.
Et Frédéric qui vient de nous rejoindre dans le studio.
Doria, que je ne connaissais pas d'ailleurs, comme certaines d'entre vous. Et je crois, qui c'est qui a proposé Doria? C'est toi?
Oui, Myriam.
Ah, c'est Myriam. Et donc, on a pu aller la rencontrer. Et en fait, moi, ce que je leur avais dit en préparant l'émission, en préparant les questions, c'est que je ne voulais pas une interview didactique avec « on pose la question, Doria répond ». Je voulais un échange. On est en preuve, on est resté 1 heure quand même d'entretien, donc c'était quand même une belle rencontre, je pense.
Alors Doria, vous l'aurez compris, qui est donc une rappeuse française, pourquoi Myriam t'avait proposé son nom?
Parce qu'on aime bien ses sons, et c'est une femme, c'est une des seules femmes dans le rap, parce qu'il y en a beaucoup de femmes dans la chanson, mais dans le rap c'est plus rare.
On est parti dans le 20e arrondissement sur Paris pour rejoindre Doria dans son studio.
Dans son studio carrément, elle vous a accueilli ouais. Là-bas.
On était rentrés, elle n'était pas encore là, mais on était avec toute son équipe, on s'est installés, ils étaient très chaleureux et accueillants. Et ensuite Doria elle est venue et on a discuté un peu avec elle et ensuite on a commencé une interview et c'était vraiment trop bien. C'était pas que des questions-réponses, on était vraiment basé sur un échange avec elle. Et c'était super bien.
Et on écoute votre reportage donc dans le studio de musique de la rappeuse Doria, avec, vous allez l'entendre, une prise de son parfaite, puisqu'elle est signée Frédéric Kérou.
Là, on rentre dans une pièce. Il y a des tables, des fauteuils.
C'est très coloré. C'est très beau. C'est très convivial.
Je vous présente Optim, qui est notre ingénieur du son.
Enchanté. Bienvenue chez nous.
Entrez, commencez à vous asseoir.
Merci.
Bonjour.
Hello. Vous allez bien?
Oui, ça va, tu peux me tutoyer.
Ah, ok.
Moi, je suis originaire de Nanterre et j'avais ma meilleure copine qui a fait ses études à Guy de Maupassant. Donc, c'est pour ça que je connais, j'allais la chercher tout le temps dans le 304. Dans le gros bus bien bondé, là.
Et du coup, là, t'es en train de travailler sur un nouvel album?
Ouais, c'est ça, sur mon premier projet. On a enregistré donc sur toute l'année, là.
C'est quoi la chose la plus compliquée dans un album?
Être le plus large possible, tout en ne s'éloignant pas de ce que tu es. Je veux faire de la musique pour que les gens l'aiment, comme moi je l'aime. Ouais. Sauf que moi, j'écoute de toutes les musiques. Et je voulais vraiment, dans mon projet, que ça se ressente, tu vois, qu'il y ait un peu de tous les styles musicalement. Je voulais qu'il y ait un mélange de plein de sonorités. En vrai, c'était ça le plus compliqué. pour pas se perdre.
À quel âge t'as commencé un peu le rap?
En fait, au départ, moi, je chantais, ouais, je rappais pas. Et j'avais fait un concours avec ma ville, donc avec la ville de Nanterre. C'était ma copine qui m'avait inscrite, je savais même pas que j'allais à un concours.
Ouais.
Et elle m'a dit, ouais, viens et tout, on va sortir, on va manger et tout. J'arrive à un concours. J'étais débordée, je l'ai fait. À la fin, ça s'est super bien passé. J'ai kiffé l'expérience, tu vois, de la scène, d'aller chanter devant un public. Et du coup, après, j'avais ma maman qui était sur mes côtes de dingue. Donc, je devais absolument avoir mon bac. Moi, j'ai fait L, donc j'étais en général.
Ouais, bac L.
Et j'avais ma mère qui était grave à cheval sur l'école. C'est très important dans ma famille.
Ouais.
Et donc, du coup, j'ai un peu mis de côté, en fait, la musique. Et j'ai continué à faire mes études. Et jusqu'à l'année dernière, donc, j'ai eu ma licence en événementiel communication. Et là, depuis... elle est un peu plus tranquille, tu vois. Tu fais ta musique et tout. Je sais que t'as des bagages en main si demain, se passe quelque chose.
Il y a
quoi,
autre chose.
Est-ce qu'avant que t'aies toute cette notoriété-là, on te prenait pas au sérieux?
Franchement, non.
Non,
on me prenait pas au sérieux. Ouais. On me prenait pas au sérieux. Et en fait, c'est la détermination quand les gens, ils ont vu que j'étais acharnée. Tu vois, les gens qui se disent, ouais, vas-y, elle a un peu de talent et tout. Au début, ils veulent t'apporter de l'aide. Et quand ils voient que toi, t'es vraiment déterminée, bah, ça y est, ils reculent. Tu vois, ils disent, ah, bah non, en fait, j'aurais peut-être pas dû lui proposer de l'aide. Celle-là, elle est un peu trop déter. Tu sais, les gens, ils se disent surtout, ouais, c'est une meuf. D'abord, on va voir ce qu'elle va faire. Après, on verra. Du coup, puisqu'on verra après, bah, on verra pas, en fait.
À ton avis, pourquoi les femmes hésitent plus à se lancer dans le rap?
Bah parce que c'est un milieu de mecs quand même, tu vois, comme t'as dit tout à l'heure, il y a beaucoup de mecs et du coup tu te dis ouais, je vais me lancer dans un milieu où c'est très masculin, où même nous les meufs, on écoute beaucoup de mecs, on est dur envers les autres femmes, tu vois ce que je veux dire, on va pas se dire vas-y qu'est-ce qu'elle a elle, qu'est-ce qu'elle a la selle, elle raconte quoi, c'est vrai ou pas, on est comme ça, tu vois, et c'est ce truc que j'ai envie de casser en vrai, en mode... Hey, je suis comme toi. Demain, tu vas me croiser faire mes courses, tu vas me croiser. Je suis pas dans le truc glamour. J'aime bien l'authenticité, les échanges simples, comme on est en train de faire là, ça me va très très bien, tu vois. Il y a des gens, enfin pour eux, t'es une meuf, donc ça y est, t'es dans le chichi, t'es dans la diva et tout, alors que pas du tout en fait, tu vois. Et ils ont des a priori et des barrières et faut les casser.
Est-ce que par rapport à ta carrière, est-ce qu'on t'a mis des barrières juste parce que t'étais une femme ou...
Non, c'est pas qu'on m'a mis des barrières, mais c'est qu'on prend pas au sérieux.
Ouais.
Tu sais, c'est ça, c'est juste ça, genre en mode ouais, rap, mais c'est une meuf. Vas-y, okay, dans 3 ans, tu vas avoir des gosses, tu vas arrêter de toute façon. Moi, j'aime bien qu'on me prend pas au sérieux. J'ai encore plus la haine, j'ai encore plus le fait.
Si, par exemple, une fille, par exemple, comme nous, enfin, comme moi, on va s'imaginer, je veux me lancer dans le rap.
Ouais.
Ok. Et tu me donnerais quoi comme conseil?
Ben, de pas lâcher surtout.
Toujours foncer et tout.
Toujours foncer, ouais.
Ouais.
Toujours être déterminé. Genre, déterminé, ça veut pas dire se lancer sur n'importe quel choix et ne pas réfléchir. Ça veut dire que, par exemple, des fois, tu vas te dire, on va te proposer quelque chose, tu vas te dire, c'est peut-être une belle opportunité pour moi, mais en fait, si tu réfléchis bien, peut-être que cette opportunité-là va t'apporter des problèmes plus tard.
Ouais.
Ou peut-être que le fait d'avoir fait ça comme ça à ce moment-là, alors que tu n'étais pas prête, peut-être, ou peut-être que tu n'envisageais pas la chose comme ça. Déterminé, mais réfléchi. Tu vois.
Toujours.
Toujours.
Pas
sur un coup de tête ou sur un coup de sang, je suis énervée, j'y vais, pas comme ça. Ça, c'est les choses que tu regrettes après.
Vraiment, avant, je te connaissais pas. Mmh. Et genre, ça m'a fait très plaisir de te connaître. Et vraiment, tes musiques, elles sont vraiment cool. Vraiment, t'as du talent. Et du coup, continue comme ça.
Merci beaucoup, ça me fait vraiment plaisir.
Moi aussi, je te connaissais pas du tout. Tu lâches des bêtes de son, c'est trop bien. Et je te conseille juste de continuer comme ça.
Hein. Merci,
et même si t'es une femme, je t'en fous.
Bah ouais, on
s'en fout. C'est rien, c'est là.
J'essaie de voir l'avenir dans mes choix, dans mes pensées. Dans un milieu oppressif, dans un monde plutôt pressé. J'ai pas de temps à dépenser, il m'arrive de te délaisser. T'as pas tracé du papier, je nage où j'ai papier. Mais comment te dire que j'essaie de vivre ma vie? Quand la vue ne me plaît plus, je baisse les stores, je regarde le mur. Je dirais pas que je suis dépressive, attachante et possessive. Trop maniaque mais bordélique, trop vulgaire mais poétique. Je sais, je suis pas comme tout le monde, mais personne n'est comme tout le monde. Je peux être timide, réservé et tout casser devant tout le monde. Il la trouvera magnifique et tu la trouveras immonde. Tu la trouveras magique et il la trouvera bidon. Pour toi, il vend des litres, pour elle c'est le bad boy et le bon pour elle il est trop mignon, ce connard le roi des cons. Les goûts se discutent pas, je préfère te dire ce qui me touche pas. On aura beau en discuter, on trouvera pas de coupable. Donner, oui, donner tes soeurs. Quand ça fait mal, tu sais où il faut lâcher les soeurs.
Je veux voir les choses en grand, oui, leur donner, je fais. L'important, c'est pas eux, oui, c'est nous, tu le sais. Et tu leur diras goodbye, goodbye, goodbye. Goodbye, c'est tout. Goodbye, 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 oui. Goodbye, c'est tout. Et tout, 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 tout. Goodbye, c'est tout. Ouais, tout, 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 tout. Goodbye, c'est tout. Nos choix sont différents, finalité pour tout le monde. C'est pas si différent, personne n'aura de seconde chance. T'y penses une seconde, toi. Si le cancer t'emporte là-bas, et si demain tu n'es plus là. Comme je sais pas ce que je ferai, si ma famille disparaît. Si mon honneur est bafoué, si l'amitié s'est fanée. Si le cœur a lâché, si la peine a marqué. Si la rancœur a cassé, si mon sourire s'est caché. Personne n'est parfait, on se conjuguera à l'imparfait. On finira par décéder, qu'on vende des grecs ou des CD. On prend nos échecs, nos ratures avec, on essaie de céder. Laisse changer qui tu es, tu finiras par y céder. J'aime la guerre car j'aime la paix, j'aime la peine mais pas la haine. Je veux pas penser à ce qu'ils ont fait, je préfère penser à ce qu'il faut faire. Et on me fait pleurer parce que demain me paraît loin. Je préfère que ça reste un essai, juste un bout de chemin. Donner, oui, donner tes soeurs. Quand ça fait mal, tu sais, oui, faut lâcher les soeurs. Je veux voir les choses en grand, oui, leur donner, je fais. L'important, c'est pas eux, oui, c'est nous, tu le sais. Et tu leur diras goodbye, goodbye, goodbye. Goodbye, c'est tout. Goodbye, 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 oui. Goodbye, c'est tout. Et tout, 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 tout.
C'était Goodbye de Doria. Merci à Doria de nous avoir fait partager ce titre issu de son album qui vient de sortir chez Awa. Et pour terminer cette émission sur la mixité, Fanny Léonore Crouzet, tu nous emmènes, et ça va faire du bien, au cinéma avec ton groupe.
Oui, donc on a eu des discussions plutôt sur la discrimination positive. Proder, tu peux me rappeler un petit peu d'où c'est parti ce sujet?
Bah d'abord, on n'a pas la discrimination positive dans le sport. Ensuite, on s'est dirigé vers le cinéma. Avant ça, j'avais pensé, moi, si j'étais choisi plus tard dans un métier, ce serait pour mes talents ou bien pour ma couleur de peau ou autre.
Une des choses qui nous a dirigé vers notre sujet, c'est donc le quota des Oscars. En fait, l'année dernière, aux Oscars, ils ont dit qu'ils allaient instaurer d'ici 2023 ou 2024 une règle donc des quotas qui fait que pour qu'un film soit nominé aux Oscars, il faut qu'il y ait au moins un acteur principal noir ou asiatique, homosexuel, etc., etc.
Et nous, on a eu des débats là-dessus entre nous. Et toi, Nakib, la discrimination positive, tu étais plutôt contre au départ.
Alors oui, on s'était demandé si c'était une bonne chose ou non. Au départ, moi, j'étais totalement contre. Les gens qui sont homosexuels ou qui sont noirs ou d'une ethnie qui n'est pas blanche, eh ben, ils vont se sentir pris simplement pour leur couleur de peau et non pas pour leur talent. Et donc, c'est plutôt vexant.
Rémi.
Au début, moi j'étais plutôt pour, parce que pour les personnes qui sont non blanches, c'est une opportunité, ils peuvent faire leurs preuves et montrer leur talent grâce à cette opportunité qui a été donnée.
Là vous avez interviewé 4 personnes en tout, qu'on va entendre dans ce reportage, que je vous propose d'écouter maintenant. Please welcome your host, Chris Rock.
Pourquoi protestons-nous? C'est une grande question. Pourquoi cette désapprobation? Pourquoi cette défiance? C'est la 88e cérémonie des Oscars, ce qui signifie que cette tendance à ne pas nommer de noirs, ça s'est passé au moins 71 fois. Voilà. Il faut réaliser que ça s'est passé dans les années 50, dans les années 60, dans les années 60, Sidney Poitier en a fait un film. Dans ces années-là, je suis sûr qu'il n'y avait pas de Noirs nommés dans les années 62, 63. Et les Noirs n'ont pas protesté. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, nous avions d'autres vrais sujets contre lesquels protester.
Après-midi pluvieux à Paris, on se réfugie sous les arbres du cimetière du Père-Lachaise pour s'abriter et nous avons rendez-vous avec Lucie Borloteau, actrice et réalisatrice de films.
Est-ce que, lors des castings, vous faites attention à représenter des minorités?
Alors là, spécialement, en ce moment, en plus, je suis en casting pour un film que je vais tourner, donc si tout va bien, cette année. Et c'est justement un film qui raconte l'histoire d'un groupe de filles qui sont pas du tout du même milieu. Donc justement, ça va être l'occasion de montrer Paris et la région parisienne, puisque moi, c'est là que j'habite depuis 20 ans maintenant, telle qu'elle est. C'est-à-dire que voilà, il y a des personnes de toutes origines ethniques et de toutes origines sociales qui se mélangent.
Antoine Garraud, lui aussi réalisateur, dit dès le début de l'interview que la responsabilité des directeurs et directrices de casting a un lien avec le manque de diversité au cinéma.
C'est un des endroits principaux où il y a un vrai effort à faire en France. Il y a vraiment une sorte d'habitude et donc de stéréotypes et donc de clichés qui s'est mis en place chez beaucoup de directeurs et directrices de casting. Pas forcément par mauvaise volonté, mais vraiment parce qu'au fil des années, ils ont fait des carnets d'adresses, d'acteurs, ils ont mis des acteurs et des actrices dans certaines cases. Et puis des acteurs qui vont venir d'autres milieux sociaux ou quoi, qui ont moins travaillé, on va moins penser à eux.
Lucie Borloteau est coprésidente de la Société des réalisateurs de films, une association de cinéastes. Antoine Barraud y pilote le groupe Parité, Inclusion, Diversité. Le but de ce groupe est d'inciter les cinéastes à se poser plus de questions sur leur façon de travailler.
En fait, ce qui est très pénible, par exemple, moi, quand j'ai réalisé la série, il y avait certains techniciens qui disaient « Oh là là, il y a beaucoup de femmes hein, sur ce projet !» Et là, on se dit « Bah, quand même, là, c'est... Enfin, oui, ok, il y a... » Parce qu'on était au poste de pouvoir, en fait. C'était un truc un peu fou de faire cette réflexion. Donc, le truc qu'on vise... Et pour moi, la SRF, c'est ces choses à conviser, c'est qu'il n'y ait plus besoin de faire ce genre de remarques, en fait.
Steve Tiencheux a monté les marches du festival en 2019 pour son rôle du maire dans le film Les Misérables de Lajli.
Il a commencé à apprendre le théâtre au Cours Simon à Paris quand il avait 25 ans. À cette époque, la réalisatrice Alice Diop filme un documentaire, La mort de Danton, dont il est le sujet principal, un jeune homme noir qui peine à trouver sa place.
Vous avez dit que vous vous sentiez mal intégré. Je cite, vous avez dit « Je me sens comme le chat du gouttière de la classe ». Est-ce qu'actuellement, vous vous sentez plus intégré ou bien non?
Actuellement, je me sens intégré parce que j'ai voulu m'intégrer déjà moi-même. Après, je n'étais vraiment pas là pour me trouver des amis. C'est quoi être intégré après aussi?
Pour moi, être intégré, c'est plutôt quand vous êtes avec vos camarades acteurs, si vous vous sentez bien, sans aucune gêne de parler avec eux, etc.
Ouais, tu dis camarade acteur, mais être intégré par rapport à ce que eux, ça soit des blancs et moi, je suis un noir, c'est ça ta question. Si je suis en camarade avec, en groupe avec des gens, on est tous intégrés. C'est ça le truc, en fait.
Dans ce documentaire, celui qui est alors un jeune étudiant raconte que ses enseignants ont préféré peindre un de ses camarades blancs en noir plutôt que de laisser Steve inviter un de ses amis de la même couleur de peau.
Ouais, là, franchement, là, c'était dur. C'était peut-être le moment le plus dur que j'ai vécu dans les 3 ans. Je pouvais tout supporter, mais là, c'était dur. Venant d'une cité qui a connu la violence, là, ça m'a fait mal. Et pour eux, c'était normal. Mais j'ai même pas eu le temps de répondre tellement que ça m'a choqué, en fait.
Cette période est maintenant loin derrière pour celui qui, aujourd'hui, a 38 ans et plus d'une vingtaine de rôles à son actif.
En fait, j'ai plus le temps d'attendre après les gens. C'est à moi de créer. On peut plus, je vais pas dire pleurer comme les anciens, parce que ils ont souffert et tout, mais on peut plus se comporter comme les anciens, parce que on doit construire notre immeuble tout seul. On ne doit plus demander la permission de dire « Est-ce que je suis français? Est-ce qu'on peut vivre ensemble ?» Il n'y a plus de permission à demander maintenant. Fait et puis c'est tout.
Il faut le prouver par des actes maintenant.
Le dernier acte de Steve Tiencheux a été de créer chez lui, à la Cité des 3000, une formation accélérée de 2 mois avec cours de danse, coaching de jeu, etc. Réservée aux habitants d'Aulnay-sous-Bois cette année, elle ouvrira ses portes à d'autres publics dans le futur.
Susciter des vocations, accompagner des parcours, et semer des graines dans la tête des gens. Parce que souvent, les gens en cité, ils aiment bien, ils veulent tous réussir, mais ils veulent pas travailler. Il faut juste, comment ça s'appelle, leur mettre dans la tête que tu peux réussir, tout le monde peut réussir, mais il faudra passer par le travail.
Quelques arrêts de métro plus tard, on retrouve Noémie Schmitt, comédienne suisse de 30 ans. On s'installe dans un parc près de Montmartre pour un échange qui durera plus d'une heure.
Quand je regarde un film, souvent je m'identifie au personnage féminin. Et souvent, comme le personnage féminin il est sexualisé, c'est la bombe, c'est l'objet sexuel, c'est la belle fille, qui est séduisante en fait, qui est séductrice. Mon identification, elle se fait à une personne séductrice, alors que je peux avoir tellement d'autres potentialités. Même dans les films d'action où t'as une personne, un rôle féminin qui conduit les voitures et qui fait des trucs traditionnellement masculins, on va dire, bah, elle finit toujours par quand même embrasser un garçon, avoir une histoire d'amour. Moi, le nombre de scénarios que je reçois, je pense qu'il y a 90% des scénarios, dedans j'ai une histoire d'amour avec un garçon.
Elle nous pose beaucoup de questions et se confie sur son expérience de jeune femme dans le cinéma et sur un début de carrière parfois violent.
Au début de ma carrière, je disais rien. Et on m'a fait comprendre aussi qu'il ne fallait pas que je parle. On m'a déjà dit, par exemple, tu sais, si tu me dis non, si tu refuses de faire ça, tu sais, c'est un métier où les gens ils parlent beaucoup et c'est pas bon pour ta carrière.
Actrice est un métier qui compte beaucoup d'appelés pour peu d'élus et dans lequel Noémie s'est souvent écrasée pour ne pas mettre sa carrière en danger.
La première fois où j'ai dit à un réalisateur, en fait, là, je ne suis pas d'accord, eh ben, j'ai été virée.
Elle croit aujourd'hui au pouvoir du cinéma pour montrer l'exemple et être un outil pour ouvrir les mentalités et sortir des clichés.
Bah, par exemple, la dernière fois, il y avait un film où il y avait une scène où le gars il faisait de la musculation et sa femme elle venait dans la scène et elle lui montrait son ventre parce qu'elle était enceinte et elle lui disait ah, regarde cette robe, est-ce qu'elle me va bien? Et tu vois, avec les producteurs, les productrices et le réalisateur, j'ai dit bah, je trouve que cette scène elle est un peu cliché, tu vois. Et en fait, eux, bah, ils trouvent pas. Parce qu'ils disent maintenant, mais dans la réalité, c'est comme ça. Si on veut que la réalité, elle change, si on veut que la société, elle change, comme on a un pouvoir dans le cinéma, le pouvoir des images, le pouvoir de la représentation, c'est à nous de changer aussi les choses, les clichés, proposer d'autres réalités.
Sa solution à elle ?
Faire mes propres trucs à moi, comme Paris est à nous, où en fait, du coup, je crée des rapports de travail qui sont sains, qui sont respectueux, qui sont égalitaires avec les gens avec qui je travaille. Et donc, je crée, moi, ma propre utopie. Plutôt que d'essayer de changer un système qui est inchangeable parce que les gens qui sont au pouvoir, de nouveau, ben, c'est des gens qui n'ont pas envie que ça change parce que ce n'est pas leur intérêt que ça change. Plutôt que de me battre contre des moulins à vent, juste créer autre chose, créer un autre système, créer une autre utopie. Et je pense que c'est le meilleur truc que j'ai trouvé pour l'instant. Que je pense que nous, les jeunes, qui venons de plein d'horizons différents, qui n'avons pas la même histoire, mais qui sommes tous, en fait... engagés dans la même société française, tu vois, on est tous en fait responsables du destin de l'humanité, je pense, à notre petite échelle.
Avec ses collègues, Noémie a produit et joué un film tourné à Paris après le confinement. Anne Evin a été sélectionnée au festival de Tribeca à New York.
Imagine, c'est un soir de juin dernier dans Paris qui se réveille. T'as le pouvoir d'écouter les discussions des gens que tu croises dans la rue. Ils disent ce qu'ils ont vécu, pensé, ressenti, pleuré, aimé ici à la surface de cette terre. Et on relie chaque petite histoire dans la ville pour raconter notre époque.
Alors que le cinéma est à l'arrêt, nous, on n'a jamais vu autant de possibilités de faire des films. Avec la pandémie, la vie changeait rapidement autour de nous, mais nous, on s'est senti de prendre le temps, réellement. Et on s'est lancé dans ce défi, même si tout le monde nous disait que c'était quasi impossible.
Et ce film, on est allé le voir ensemble, c'était le 6 juin, un dimanche matin, vous êtes tous levés et vous avez pris le train de Colombes. Je suis venue vous récupérer à Saint-Lazare. Elle vous a invité à l'avant-première de son film, qui n'est pas encore vendu puisqu'elle n'a pas encore distributeur. Qu'est-ce que ça vous a laissé, Nakib ?
Alors déjà, le fait d'être invité à une avant-première, ça nous donne l'impression d'être des stars, des gens du milieu. Et j'ai bien aimé la technique du film parce que donc c'était un plan séquence d'une heure trente. Et je pensais que c'était vraiment très fort d'avoir pu faire ça.
Vous avez rencontré aussi Steve Tienche, qui vous a dit que votre génération, vous deviez vous bouger, faire beaucoup d'années d'études, faire mieux que vos parents. Qu'est-ce qui vous en reste de cette conversation avec Steve Tienche ?
Il m'en reste qu'il n'a pas forcément tort.
On est plus aidé que lui a été à son époque et que du coup, on n'a plus d'excuses. On doit aller jusqu'au bout. Par exemple, sur Parcoursup, ces temps-ci, c'est dit qu'ils prennent par rapport au lycée. Par exemple, nous, on n'a pas personne finalement. On a vraiment choisi son lycée ici. On a eu nos lycées de secteur et du coup, il y a une petite injustice du coup sur Parcoursup du coup qui vont nous défavoriser. Et du coup bon être confiant pour le futur, oui et non.
Je suis pas trop d'accord avec Nakib. Pour moi, on n'est pas défavorisé. Je pense que si on travaille et qu'on se donne les moyens, on peut aller dans l'université qu'on veut et faire les études qu'on veut.
Oui, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit que à force de persévérance, on peut le faire.
Mais je rejoins quand même Nakib sur l'idée du lycée. Parce que même si on a les mêmes compétences extérieures de quelqu'un, si lui est dans un lycée plus prestigieux que nous, ceux qui nous recrutent, bah, ils ont plus tendance à aller vers l'autre, naturellement.
Donc on est un peu sous-évalué, quoi.
What is life without love?
What's life without dreams? What's life without goals? Everything ain't what it seems. What's life without friends who remain genuine? Don't care about the money or what type of crib you in. Who can withstand the test of time? That's just a guess of mine. Here in real life, homie, this is not a set design. Not on TV screens or the magazine covers. Sitting and observing as the travesty flutters. While we got a beef, shit, I'd rather be brothers. Trips to Tokyo with some Japanese lovers. Lost boy in this world full of hatred and greed. See a young nigga make it what they hating to see. Never complacent, I be on the chase for the cream. Cash rules everything, but you facing the king. Let's step up to this parliament. Every fucking ball legit. I know you in denial like an alcoholic father is. Hold up, let me pause a bit. Nobody is as raw as this. Word to Jesus Christ, I hope nobody ever crossed the kid. Damn. Yes, men are the main Judas, but I will remain true. It's my problems, I aim through it. This, that thought provoking, that leave you lost and hoping. Voices in my head be lying, so my heart has spoken. Rap niggas far from potent, they just out here saying random shit. Had to drop a classic, cause I heard they was demanding it. Anxiety is damaging, but what's the pressure? Make that shit that's from the soul, but with a touch of effort, nothing lesser. Real love, it ain't nothing better. That's why I need that real love, it ain't nothing better. See, what's life without purpose? What's life without verses? Lost boy in this shit. What's life without churches? What's life without belief? What's life without goals? What's life without me? What's me without soul?
When they reminisce, will my life be told in sentences that run on until God finishes? Face to face with the maker, I show my blemishes. God by nature, I know what my image is. My revelation is the new Genesis. On some masterpiece shit, I don't know what limits is. What's life without love? What's life without haters? We all gotta eat, so to them I don't cater. I might humble you and sit you down like a waiter. Show you what beef is and tell you what the stakes are. High like a dove, I come from up above. Inspired by two dope boys and one love. This is a letter to the better together with metaphysics. They say life is written and mine got better lyrics. What's life without pitfalls and getting lit, y'all? They say life's a bitch, I don't wanna know them in-laws.
Alors je suis personnellement très contente de vous voir aujourd'hui dans ce studio parce que c'était une année très particulière pour tout le monde et vous c'était votre première année de lycée, une année de lycée sous Covid. C'était une année très difficile. Si je vous dis visio.
Horreur.
Catastrophe. Horrible.
Mauvaise note.
Pire chose au monde.
Compliqué.
Vous avez parfois décroché.
Je venais même plus à l'école parce que j'en avais marre. Un coup, c'était un jour sur deux. Moi je me disais... Je suis pas là 3 jours, c'est bon, je suis pas là 1 semaine. Ça m'a encore plus mis en difficulté. Je comprenais rien et ils mettaient des contrôles. Et sur le moment, quand je venais, je me tapais 1-0. Je mettais même pas mon prénom. Je donnais feuille blanche. Je savais déjà que c'était 0.
Surtout vers le 2e trimestre, je dirais. J'allais à l'école juste pour y aller. Il y avait aucune envie, aucune motivation. À chaque fois le matin, je me réveillais. J'avais juste pas envie d'être là. Mais j'y allais parce que j'avais pas le choix en fait.
Je suivais à peine, j'étais là sans être là.
Pendant le confinement, moi, je vivais plus. Je dormais à pas d'heure, je dormais à 9h, je me réveillais à 18h, des fois.
Vous êtes là, en tout cas, aujourd'hui, vous participez à cette émission, donc ça veut dire que vous êtes encore là, encore debout. Qu'est-ce qui vous a fait tenir, malgré tout ça?
Nos rêves de plus tard, parce qu'on sait que si on travaille pas, on n'aura pas ce qu'on voudra.